Merci.
Voilà. Alors, on va donc commencer. Il est 2h04, donc les derniers ne seront pas les premiers. Donc, d'abord, je vous salue, toutes et tous. Je vous remercie d'être là pour subir ce cours qui s'annonce peut-être fastidieux. Vous n'en savez rien, vous verrez bien. J'ai comme charge donc de vous initier à la théologie morale fondamentale, ce qui est un défi pas totalement insurmontable, mais qui est quand même difficile à relever dans le cadre du nombre d'heures qui m'est imparti, comme on dit dans ces cas-là. Et donc, surtout que le haut de Ragozin m'a demandé cette année d'approfondir. Alors, je suis un peu embêté parce que d'abord, je vais vous dire en quelques mots qui je suis, comme ça vous saurez à qui vous avez affaire à peu près. Et puis, deuxièmement, je vais vous dire le contexte dans lequel ce cours a été fait l'an dernier et pourquoi je n'ai pas pu faire mieux. Donc, cette année, je vais essayer de faire mieux, mais ce n'est pas sûr. Alors, je coupe ça pour être tranquille. Voilà. Donc, je m'appelle Laurent Lemoine, je suis prêtre et je suis l'aumônier de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Hop, voilà, voilà. Je suis l'aumônier de l'hôpital Sainte-Anne à Paris depuis 3 ans et je suis enseignant en théologie morale dans différentes formations depuis, oh là là, depuis, je ne sais pas, moi, 2005, vous voyez, etc. Et j'ai enseigné une petite dizaine d'années à la Catho d'Angers, à la faculté de théologie de la Catho d'Angers, qui n'existe presque, enfin, la faculté de théologie de la Catho d'Angers, s'il y a des Angevins ou des gens qui connaissent la région. Parmi vous, la faculté de théologie de la Catho d'Angers est réduite à sa plus simple expression désormais. Donc voilà, j'ai enseigné je fais pas mal de cours ou de TD en remplacement à la Catho de Paris aussi, toujours en théologie morale. De toute façon, moi, je sais faire que la théologie morale. Alors théologie morale générale ou théologie morale sexuelle, familiale. Je ne suis pas un spécialiste. Vous savez, c'est comme pour l'épidémie, ce qui va nous donner lieu à beaucoup de comparaisons cette année, beaucoup d'analogies. Je ne suis pas spécialiste de toutes les disciplines de théologie, de même que vous avez découvert des virologues, des épidémiologues, des infectiologues et tout. Moi, je ne fais que de la théologie morale. Et dans la théologie morale, je fais plutôt la morale générale, l'histoire de la théologie morale, ça, on va en faire un peu. Et puis la théologie morale familiale et sexuelle, c'est-à-dire que ma compétence s'arrête là et alors j'exagère un peu, hein, mais je ne suis pas un spécialiste de la morale économique ni sociale, pas franchement, même si j'en connais un peu quand même, mais c'était pas l'objet de ma thèse et c'est pas l'objet des cours qu'on m'a demandé. Puis vous savez, un enseignant, il enseigne parce qu'il fait, enfin, il connaît des choses parce qu'il fait des cours, parce qu'il est obligé de les préparer et que voilà, et qu'on ne peut pas être compétent en épidémiologie comme les 66 millions de Français qui sont maintenant épidémiologues. Donc, voilà. Alors j'ai enseigné à Angers, j'ai enseigné un peu à Paris et j'enseigne au CIF depuis, je ne sais pas, peut-être 6-7 ans, quelque chose comme ça, ce cours, toujours le même, que j'actualise. Alors là, depuis l'épidémie, ça me donne de nouvelles façons d'actualiser. Je m'en passerai de l'épidémie et de cette actualisation, mais enfin, bon, faut se servir de tout. Donc voilà. Et puis, j'enseigne également en faculté de médecine dans tel ou tel diplôme universitaire. Alors j'ai enseigné au bébé médecin, juste après le concours, si vous voulez, juste après l'entrée, si vous voulez. Puis maintenant, j'enseigne en DU, dans un DU de psychiatrie, justement à l'hôpital Sainte-Anne. Voilà, je fais partie de plateformes éthiques diverses et variées. Et puis, j'exerce la coupable industrie, j'aime bien le dire comme ça, de psychanalyste depuis 12 ans exactement, en libéral, à Paris. Voilà un peu le panorama du bonhomme. Puis ça suffit parce que parler de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, ce n'est pas trop mon style. Donc, je vous ai dit à peu près de quoi vous renseigner. Aujourd'hui, je vais me contenter de faire une introduction générale qui va reprendre d'ailleurs largement la question de Vatican II, puisque vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, certains ou certaines d'entre vous. Ce sera une manière de lancer la question. Voilà. La méthode que je vais vous proposer, ce sera une méthode plutôt historique, c'est-à-dire je me propose de nous situer en 1962, c'est-à-dire à l'ouverture du Concile Vatican II. C'est pour ça que je vous fais une introduction générale aujourd'hui. Et puis après, nous allons remonter dans le temps. Et puis nous allons remonter aux sources bibliques. Et depuis les sources bibliques, nous allons progressivement faire un petit parcours, alors un petit peu par les sommets, hein, mais je ne peux pas faire mieux, un petit peu par les sommets pour voir quelle a été la morale biblique, s'il y en a une. Je vous dis tout de suite qu'il n'y en a pas une, qu'il y en a plusieurs, et que ce n'est pas seulement de la morale. Enfin, on verra ça. On va voir un petit peu quelle est la morale des pères de l'Église. Donc dans les premiers siècles. Même chose, s'il y en a une, réponse non, il y en a plusieurs, enfin on verra ça. On verra également quelle a été la morale médiévale, enfin médiévale, c'est surtout la morale, oui, la morale du grand docteur de l'Église qui a été Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Et puis la morale que l'on dit thomiste, c'est-à-dire après Saint Thomas, qui présente des visages très différents par rapport à Saint Thomas d'Aquin. Hein, et puis nous verrons, toujours dans ce parcours historique, la morale dite moderne, mais moderne, c'est-à-dire moderne et contemporaine, c'est-à-dire finalement du 18e, 19e siècle jusqu'à Vatican II. Donc vous voyez, je pars de Vatican II parce que je pose comme principe que Vatican II a été un concile, si je dis un concile de rupture, c'est un peu trop facile, mais disons le concile qui a voulu rénover l'Église, la formule que vous avez dû entendre déjà plusieurs fois étant celle de l'aggiornamento, donc la mise à jour de l'Église. Je pars de ce concile-là parce que ça fait un peu plus de 50 ans et puis parce qu'il a marqué un renouveau très important de l'Église. C'est pas que de la rupture Vatican II, ce serait trop simple de dire ça, trop rapide, mais la théologie morale que je vais vous présenter aujourd'hui, ce serait juste impossible de faire un cours de théologie morale si on avait, avec vous aujourd'hui, surtout des laïcs, s'il n'y avait pas eu Vatican II. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu Vatican II, je ne sais pas ce que ce serait devenu, mais certainement pas ce qu'on fait aujourd'hui ensemble. Donc voilà la méthode que je... Et vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'histoire, en faisant cette présentation historique, vont se dégager peu à peu les grands axes de la morale fondamentale qui est encore la nôtre aujourd'hui. Hein, donc, c'est un peu ça ma méthode. Alors, l'originalité, enfin l'originalité, je ne sais pas, mais la spécificité de ce que nous allons faire aujourd'hui et durant les séances qui vont suivre, c'est vraiment de faire de la théologie morale, c'est-à-dire je ne vais pas d'abord faire de l'éthique. Alors, c'est peut-être décevant, mais c'est un cours de théologie morale dans une institution, on va dire, catholique, et là, donc, je fais plutôt de la théologie morale. C'est pas parce que c'est pas d'abord de l'éthique qu'on va pas faire de l'éthique, mais les deux, morale et éthique, c'est une question qui a été, enfin une question, un point qui a été soulevé par l'une d'entre vous, je crois. La morale et l'éthique, ça n'est pas la même chose. Enfin, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je vais m'en expliquer tout de suite, et puis après, je commencerai à vous parler de Vatican II. La morale et l'éthique, ça n'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi? Alors, d'abord des petites questions de contexte. Vous voyez, nous sommes catholiques, nous faisons ce cours dans le cadre d'une institution catholique. Dans l'enseignement catholique, sous contrat, ce serait la même chose. Dans tout ce qui est catholique et religieux, on parle davantage de morale. Si vous allez à l'hôpital public, par exemple, ou dans d'autres institutions laïques, on va faire plutôt de l'éthique. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'on parle de la même chose avec des mots différents? Et est-ce que ça change quoi que ce soit de parler de morale dans certains milieux, tandis qu'on parle d'éthique dans d'autres? Ah, c'est quand même une question intéressante parce que, ce sont des réalités plus ou moins superposées et j'imagine que vous avez fait l'expérience par vous-même de vous dire, tiens, de temps en temps, j'utilise le mot moral, de temps en temps, j'utilise le mot éthique. Est-ce que ça change quoi que ce soit? Alors la réponse est oui, ça change un peu. Pourquoi? Alors je commence comme ça parce que ça permet de poser le vocabulaire. Puis après, vous verrez que tantôt moi-même, j'utiliserai le mot moral, tantôt j'utiliserai le mot éthique, indifféremment. Hein. Mais avant de pouvoir les utiliser indifféremment, il faut quand même que l'on puisse les définir et camper le décor, si j'ose dire. Hein. Si on regarde l'étymologie des mots, morale d'un côté et éthique de l'autre. On n'est pas très renseigné. On n'est pas très renseigné parce que, en gros, l'étymologie est très proche, c'est-à-dire le mot moral vient du latin mos, M-O-S, mos mores, ça veut dire les mœurs. Les mœurs, les coutumes. Et si on prend éthique, là, c'est un mot qui vient du grec. Et qui, alors il y a une petite hésitation en grec, s'il y a des hellénisants parmi vous, parce que, il y a une petite hésitation, une petite différence, mais bon, en principe, c'est éthos. Et l'éthos, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les mœurs. Les mœurs, les coutumes, les us et coutumes. C'est-à-dire que, d'ailleurs, le mot est passé en français, si j'ose dire, puisque ça fait très chic de dire dans des milieux très chics, nous avons le même éthos. Hein? Quand on a le même éthos, par exemple, ici dans le cours qui est le nôtre, nous avons le même éthos. C'est-à-dire nous avons les mêmes mœurs, nous avons les mêmes coutumes, nous travaillons dans le même cadre. On pourrait même dire nous avons la même culture, d'une certaine manière. Alors, il y a une petite différence en grec, si vous voulez vous amuser à aller voir ça. C'est la petite différence, mais elle est quand même intéressante entre éthos et éthios. Bon, mais j'en dis pas plus. En tout cas, l'étymologie ne renseigne pas beaucoup, parce que c'est à peu près la même chose. Mos d'un côté, éthos de l'autre. Bah, on est quand même sur les mœurs, les coutumes. C'est presque semblable, hein. En tout cas, c'est similaire. Donc, tant pis pour l'étymologie. Alors, il y a un effet d'actualité. Il y a un effet d'actualité qui donne le mot éthique comme préférable au mot moral. C'est un effet d'actualité parce que Quand on fait de l'éthique, ça fait bien. Quand on fait de la morale, ça fait pas bien. C'est-à-dire qu'on comprend bien dans la tête des gens, le mot moral, le mot, le vocabulaire est complètement déclassé. Si vous dites que vous êtes moraliste, oh là là, c'est l'horreur, hein. Si vous dites que vous faites de la morale, on vous dit que ben, vous êtes catholique, tout de suite. Vous êtes religieux. Ou vous êtes, au moment des débats sur le mariage pour tous, par exemple, à l'Assemblée, on invitait les évêques et les représentants des autres cultes parce qu'ils faisaient de la morale. C'était, vous voyez, donc le mot moral est déclassé, il est péjoré, et il ne fait pas bon être moraliste par les temps qui courent. Alors que je vous rappelle que la morale est une branche de la philosophie, hein. Les moralistes, c'est une branche en bonne et due forme de la réflexion philosophique. Il y a eu de très grands moralistes, voilà. Mais aujourd'hui, c'est pas bien, quoi. Être moraliste, ça veut dire c'est la morale à papa, ça passe pas. Alors que vous êtes éthicien, ah ça c'est très bien. Vous êtes éthicien, donc vous travaillez dans des cercles d'éthique, des comités d'éthique, vous travaillez, voilà. Et puis c'est beaucoup plus, je parle pour les spécialistes parmi nous, mais bah, c'est les comités d'éthique. Donc ça cadre beaucoup plus avec la laïcité. Hein, moi, je fais partie de comités d'éthique, ou j'en ai fait partie, ou j'en fais partie. On ne parle pas de comité de morale. Vous imaginez que si on réunissait des comités de morale à l'hôpital, personne ne viendrait. Mais on réunit des comités d'éthique parce que le mot plaît. Le mot passe mieux. Vous voyez, il y a un effet de mode. Il ne faut pas le mésestimer parce que c'est un effet réel. Quand on regarde l'étymologie, on est plutôt déçu. C'est-à-dire on n'arrive pas bien à distinguer l'intérêt de l'intérêt de la distinction. C'est ça. Alors quoi? Est-ce que c'est exactement la même chose? Ou est-ce qu'il y a vraiment une différence? Et s'il y a une différence, laquelle ou lesquelles? Alors, je vais vous donner une ou deux définitions qui permettent de distinguer la morale de l'éthique. Cela dit, selon les instruments que vous consulterez, selon les enseignants d'ailleurs que vous consulterez, ou selon vous trouverez des définitions de extrêmement différentes, hein, de la distinction entre morale et éthique. Et vous trouverez aussi des définitions parfaitement contradictoires. Donc dites-vous que ce que je vais vous dire là, c'est ma définition, mais que vous en trouverez d'autres. Et donc, ne vous insurgez pas si jamais vous trouvez ce soir en regardant sur Internet ou ailleurs des définitions contradictoires. Vous dites, le père Lemoine nous a raconté n'importe quoi, parce que je lis exactement l'inverse. En fait, il y a de multiples définitions. Je vais vous donner, à mon sens, celle qui est la plus courante ou une des plus courantes. Et qui est plutôt reçu, à vrai dire, même dans les milieux religieux et même dans les facs de théologie. Vous voyez, c'est une niche, ça, les facs de théologie. Hein. Alors, vous avez déjà, d'ailleurs, dans ce que j'ai dit, normalement perçu une petite différence. La morale, ça fait plus religieux, l'éthique, ça fait plus laïque. C'est incontestable. On peut déjà définir ça comme ça. Hein. C'est un usage très emprunté à la mode, à l'actualité, mais il est incontestable que le mot morale a une connotation plus religieuse, faut-il dire plus communautariste ou communautarienne? Peut-être, peut-être. Alors que l'éthique, c'est un mot qui passe mieux dans le cadre du pluralisme démocratique et sécularisé qui est le nôtre aujourd'hui. C'est incontestable. Mais à mon avis, ça n'est pas la principale distinction. La principale distinction, je l'emprunte à deux auteurs, Paul Ricoeur, le philosophe protestant, hein, Paul Ricoeur, et Michel Foucault. Je combine les deux auteurs pour vous proposer une définition qui me paraît la plus, oui, une des définitions dominantes actuellement, hein. La morale, elle est du côté du code. La morale est du côté de la loi. Autrement dit, la morale est d'abord du côté de la transgression, de la sanction. Par exemple, vous sortez après 19 h sans attestation, ou sans motif professionnel, etc. Moi, j'y comprends plus rien, mais enfin, on sort, qu'on a tort de sortir de toute façon. Enfin, non, il faut sortir, mais en restant dedans, au moment que ce soit dehors, enfin, on ne sait plus. Mais en tout cas, il y a un moment donné où c'est 135 euros. Hein? 135 euros, c'est-à-dire l'amende, ça, c'est de la morale. Vous ne faites pas de l'éthique avec ça. C'est de la morale. C'est-à-dire, vous transgressez, il y a une loi, le gendarme ou le policier est là, vous avez une amende, c'est de la morale. C'est-à-dire, la morale dit le bien et le mal. Elle dit ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Elle est du côté de l'interdit. C'est le code de la route, si vous voulez, hein. Vous franchissez un feu rouge, paf. Bon, c'est le code de la route. C'est, comme dit l'adage latin, la loi est dure, mais c'est la loi. Ça, c'est la morale. Oui. Non, ça va. Ça, c'est la morale. L'éthique est du côté du sens de l'action. Elle est du côté de la fin de l'action. C'est-à-dire, elle est du côté des conséquences de l'action. Qu'est-ce que j'attends d'une action que je pose? En vue de quoi je fais ce que je fais? Parmi vous, tout à l'heure, une d'entre vous s'est présentée en disant, j'ai des questions de sens, je cherche un sens. Bon, ben ça, c'est une question éthique. La question du sens, elle est éthique. Donc, cette définition-là, moi je trouve que c'est une des plus courantes, et on le retrouve chez des auteurs très différents, pas toujours formulés d'ailleurs comme tels, mais en fait, quand ils parlent de morale ou d'éthique, vous voyez bien que c'est à ça qu'ils se réfèrent. Quand ils parlent de morale, ils parlent de loi, c'est-à-dire la déontologie. Hein? Les médecins ont un code de déontologie. La déontologie, d'ailleurs, le mot grec, hein, déon, c'est le devoir. Vous voyez, tout de suite, la morale, elle est du côté du devoir. Je dois faire ça ou je ne dois pas le faire. Hein, la première règle, le premier code, d'ailleurs, la première règle, le premier article du code de déontologie médicale, c'est primum non nocere, d'abord, je ne dois pas nuire. Ben ça, je ne dois pas nuire. C'est-à-dire que le médecin s'interdit des actions. Parce que d'abord, il ne doit pas nuire. Mais il doit agir en vue du bien du patient. S'il agit en vue du bien du patient, ah ben là, il fait de l'éthique. C'est une définition, la morale du côté du code, l'éthique du côté du sens ou du but de l'action, c'est une définition très courante. Et effectivement, moi, elle me paraît valable parce qu'on voit bien que les grands auteurs aujourd'hui s'en servent comme ça. Les grands auteurs ou même notre mode de vie quotidien, hein, c'est comme ça qu'on fonctionne. Il y a d'autres définitions qu'on peut superposer. Bon, je vous ai dit... par exemple, la morale est du côté des religieux, elle serait plus confessionnelle. l'éthique serait plus du côté de la sécularisation, de la sécularité ou de la laïcité. C'est une définition. Mais vous pouvez également, il y a une autre définition possible qui est utilisée aussi assez souvent, c'est j'ai ma morale, j'ai la morale du groupe, mais j'ai mon éthique personnelle. Hein, c'est-à-dire, j'ai la morale du groupe, c'est-à-dire, par exemple, je suis catholique. Donc, si je suis catholique, j'assume dépendre d'une morale qui précisément ne dépend pas de moi, mais qui est une morale héritée d'une tradition. Et donc, c'est la morale du groupe auquel je suis libre d'appartenir. Et du coup, je l'assume. En revanche, j'ai mon éthique personnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai mon éthique personnelle, ça veut dire, ça fait pas, ça veut dire, j'en fais qu'à ma tête, hein, mais ça veut dire, il y a la morale du groupe, mais cette morale, je me l'approprie, je la singularise pour moi, je l'adapte en fonction de moi, de mes buts d'ailleurs, de mon style, de qui je suis, et j'en fais une éthique personnelle. Voyez, donc la morale serait du côté du collectif ou du groupe, et l'éthique serait du côté plutôt du sujet et de ce qu'il veut faire. Et puis il y a encore une flopée, si vous voulez, une armada de définitions différentes. À mon avis, la plus courante, c'est quand même celle que je vous ai donnée à partir de Paul Ricoeur, c'est-à-dire la morale, c'est la loi, l'éthique, c'est le sens. Et avant de faire la pause, je termine sur cette petite notice introductive pour vous dire la chose suivante. Il n'y a pas de raison d'opposer la morale et l'éthique. Parce qu'on a besoin des deux. Donc vous pouvez avoir une sensibilité plus moraliste ou une sensibilité plus éthicienne, mais en réalité, vous voyez bien qu'au moment où il faut se décider, au moment où il faut poser un choix, vous avez besoin des deux. C'est-à-dire vous avez besoin d'un moment qui va être un moment moral, où vous allez vous poser la question de la loi. Et puis, vous avez ensuite besoin d'un moment éthique, c'est-à-dire à quoi sert la loi et en vue de quoi, je décide de la suivre ou je décide, comment dirais-je, qu'il y a un bien supérieur à la loi. Bon, dans l'évangile, le bien supérieur à la loi, ça s'appelle la grâce. Dans l'évangile, hein, dans l'univers chrétien, la loi est. Jésus-Christ nous a libérés de la loi qui mène au péché, hein, dit saint Paul. La loi mène au péché, dit saint Paul. Et la grâce surpasse la loi. Donc on n'a pas besoin de. On n'a pas besoin de. Ça s'appelle la grâce ou le salut d'ailleurs. Hein, la grâce ou le salut. Donc, normalement, on a besoin des deux. On a besoin de faire de la morale et on a besoin de faire de l'éthique. Mais il peut arriver que les deux se contredisent ou que les deux se fassent front, si vous voulez, s'opposent. Hein? C'est ce qu'on appelle les conflits de devoirs. C'est ce qui fait l'objet d'ailleurs pas mal des comités d'éthique, c'est-à-dire quand il y a un conflit, quand un soignant a un conflit de devoir, il hésite, il sent bien qu'il devrait faire ça, mais il se pose la question de faire un peu autrement. Alors, il vient dans le cadre d'un comité d'éthique, et parce qu'on fait, on procède avec une éthique procédurale, une éthique pluraliste procédurale, en vue d'un consensus, si vous voulez. Eh bien, c'est parce que le soignant, la soignante, un conflit de devoir ou son équipe hein, entre ce qu'ils devraient faire et ce qu'ils ont envie de faire. Donc, le conflit de devoir, il met en exergue, il met en avant le drame parfois hein, entre la tension qui peut être très forte entre la morale et l'éthique. Hein. En particulier, vous voyez, c'est intéressant pour notre groupe, il y a des morales religieuses issues de notre religion ou d'autres religions, l'islam, etc. Il y a des morales religieuses qui mettent en conflit les soignants ou mettent en tension les soignants dans ce qu'ils doivent décider. Voilà.
Donc, on peut
Oui.
dire que la morale n'est donc pas la même pour tout le monde, ni même l'éthique.
Absolument, oui.
Donc,
La
ça dépend
morale.
des cultures et c'est presque géographique.
Alors, c'est intéressant parce que c'est votre question parce que ça me permet de donner un éclairage supplémentaire ou une définition supplémentaire. La morale serait du côté de l'universel, serait, hein, serait du côté de l'universel et l'éthique du côté du singulier. Bon, remarquez, c'est à peu
Ah.
près la même chose. C'est-à-dire, la morale, le décalogue dans la Bible, le décalogue, les 10 commandements, hein, sont du côté de la morale. Tu ne tueras pas, tu honoreras le jour du Seigneur, etc., tu ne mentiras pas. Bon, ça, c'est du côté de la morale. Mais l'éthique, et d'ailleurs, la morale, on pourrait dire aussi la morale de l'instituteur, hein, y compris d'ailleurs le cadre laïque dans lequel nous enseignons, par exemple. Hein, c'est quand même de la morale. L'instruction civique, c'est de la morale. Même si on met le mot éthique. C'est-à-dire qu'en fait, ça édicte des lois. Alors, les lois, ça peut être des règlements, des règles, des décrets, tout type de loi. Il y a des juristes parmi vous, tout type de loi, quelque chose de l'ordre de ce qu'il faut respecter. Hein, quand on parle de crise de l'autorité, de crise de la transmission, de problèmes de respect, etc., y compris à l'école, on est dans une ambiance qui est plutôt une ambiance de morale. Et dans ces cas-là, on n'hésite pas à parler de la morale républicaine, hein, ou des valeurs républicaines. Vous voyez, là, c'est vraiment c'est de la morale. On dit il y a une crise de la morale, il faut remettre de la morale à l'école. Vous voyez, ça, c'est de la morale. Mais l'éthique, ça va être, bah, OK, maintenant j'ai bien intégré ma morale. Et comme dit Evelyne, il y en a plusieurs. Hein. La morale bouddhiste, s'il y en a une, il y en a plusieurs, bien sûr. Hein. La morale héritée de nos, de nos du judaïsme, la morale héritée d'Emmanuel Kant, dans un cadre beaucoup plus autonome, ne sont pas les mêmes. Donc, effectivement, il y a plusieurs référents moraux. Il n'y a pas une morale. Enfin, cela dit, tu ne tueras pas, mais je vais préciser ça, hein. Tu ne tueras pas, c'est normalement un principe que l'on peut universaliser. Donc la question de la morale pose la question de l'universalité, ce qui est une question qui est extrêmement aiguë dans la vie qui est la nôtre aujourd'hui. Peut-on encore promouvoir l'universel? N'y a-t-il que des éthiques singulières? Peut-on promouvoir une morale universelle, surtout dans des contextes sécularisés? Si oui, laquelle? Par exemple, est-ce que liberté, égalité, fraternité, qui est la morale républicaine sur les frontons de nos mairies, n'est-ce pas, est-ce que c'est une morale universelle, universalisable? Hein? C'est une question. Est-ce que la liberté, vous voyez, dans les questions liées à l'épidémie aujourd'hui, depuis un an, la santé ne fait pas partie de la morale. Hein? La santé est un bien qui est pré-moral. On veut tous être en bonne santé plutôt qu'en mauvaise santé. Mais on est même en amont de la morale. Alors que la liberté est une valeur morale. voyez, voilà. Bon. Alors voilà pour cette première définition. Donc vous dire que moi je pense on va essayer de faire de la théologie morale, mais il est bien évident que en faisant de la théologie morale, on va évidemment faire de l'éthique en même temps. Hein, c'est en tension permanente. Tout simplement parce que nous sommes des hommes et des femmes autonomes, je l'espère pour chacun d'entre nous, mais, et pardon, pas mais, ce n'est pas adversatif, et chrétienne, chrétien, c'est-à-dire dépendant d'une morale qui a toute sa tradition religieuse derrière elle, mais dans un cadre éthique sécularisé aujourd'hui, assumant le pluralisme qui est le nôtre. Donc, ça nous met déjà en tension. Et donc, en faisant de la morale, de la théologie morale, évidemment, on rencontre, on croise les grandes questions éthiques, non seulement les questions éthiques du passé, mais les questions éthiques d'aujourd'hui. Alors, il est 15h15, je trouve que c'est pas mal pour faire une pause, si vous le voulez bien. Donc, on peut se redonner rendez-vous dans 10 minutes. Vous avez l'habitude de faire des pauses, j'espère. Moi, oui. Bon, bah, c'est très bien. Donc, je vous propose de nous retrouver à 15h25. Bon, à tout à l'heure. Hein. À 15h25, oui. 3h25.
Marianne, t'es rentrée chez toi? C'est clair. T'es rentrée chez toi?
Oui, je suis rentrée chez moi. Oui,
Ça
oui.
va? Ça va à peu près?
Ça va, ça suit son cours.
Je suis en cours. Ok.
Absolument.
Bon courage, hein.
Merci, t'es gentil. Claire, on a bien le groupe avec Philippe lundi prochain.
Le 12, oui, je crois,
Hein, lundi prochain. Oui, tout à
oui.
fait. Ok.
Bon. Bon, on va reprendre tranquillement. Bien, alors, votre question jusqu'à présent, ça va?
Oui.
Bien. Alors, je vais donc maintenant vous dire un peu plus que quelques mots sur Vatican II. Bon, je suppose que sur Vatican II, comme sur le reste, vous avez entendu et vous entendrez des discours variés et j'en suis sûr complémentaires, mais en tout cas variés. Donc, je vais ajouter à ces discours le mien. Vous verrez bien si ça fait cacophonie ou pas. J'allais dire, je suis pratiquement obligé, éthiquement ou moralement, de partir de Vatican II, mais c'est un piège. Et là, je pense que je suis un mauvais prof. Parce que, en vous parlant de Vatican II, je vous donne l'impression, et il ne faut pas que vous l'ayez, il ne faudrait pas que vous l'ayez, que tout commence avec Vatican II. Comme si l'Église catholique de Jésus-Christ prenait sa source ou son envol véritable avec Vatican II. C'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que Vatican II n'est pas le point zéro de la réforme de l'Église ou de la rénovation de l'Église. Hein. Sur le terrain de la morale, comme sur tout, Vatican II a fourni un tel apport. Vatican II représente une telle, si je dis révolution, ce serait un mot ambigu, mais une telle tentative de réforme, plus ou moins achevée. À mon avis, c'est une réforme inachevée, Vatican II, hein. C'est probablement une réforme encore en cours, Vatican II. Mais ça représentait ça, Vatican II. Et donc, ce serait disproportionné de vous dire que tout commence avec Vatican II, serait stupide. Mais ce serait erroné aussi de vous dire que Vatican II n'a pas représenté une forme de rupture, oui, le mot n'est peut-être pas trop fort, par rapport à plusieurs éléments hérités.
Je suis d'accord avec vous quand vous dites que c'est une tentative de révolution.
Oui, c'est une tentative. Alors là, vous savez, en quelques mots, j'essaye de synthétiser parce que ça, on a publié des livres entiers, on a fait des colloques entiers pour savoir, hein, mais disons, c'est un effort de réforme voulu par. Le mot réforme, d'ailleurs, il est très discutable. Hein. Le mot de Jean 23, c'est la mise à jour. Hein. Il fallait rénover, mettre à jour l'Église par rapport à quoi? Par rapport au monde. Et donc, on a beaucoup dit que Vatican II était le concile de l'ouverture au monde. Et voyez d'emblée que lorsqu'on parle du concile de l'ouverture au monde, ça veut dire que la morale est d'emblée concernée. Parce que le monde, c'est quoi? Ben, c'est de la morale tous les jours. C'est évident. Donc, c'est le concile de l'ouverture au monde. C'est le concile de la mise à jour, aggiornamento, de l'Église par rapport au monde. Et c'est un concile qui a été décrit comme un concile pastoral et non pas d'abord un concile doctrinal ou dogmatique. La grande originalité de Vatican II, c'est, on a réuni les conciles jusqu'à présent, les grands conciles écuméniques ont toujours été réunis dans l'Église pour répondre à une question dogmatique. La christologie, n'est-ce pas, c'est ça. Les dogmes christologiques ou les dogmes trinitaires, il y a eu une hérésie préalable, du coup on convoque un concile qui dit l'orthodoxie, l'orthodoxie doctrinale, l'orthodoxie de la foi. Vatican II n'a répondu à, en théorie, je voudrais voir, mais c'est discuté aussi, mais en théorie, Vatican II n'a répondu à aucune hérésie. Ce n'est pas un concile dogmatique. Il n'y a pas d'affirmation dogmatique dans Vatican II. C'est un concile pastoral. Et qui dit pastoral, dit forcément aussi moral. Hein, la pastorale, c'est la vie quotidienne du peuple chrétien. Et bien, la morale, c'est la vie quotidienne du peuple chrétien. Donc, vous voyez, les moralistes sont intéressés au premier chef par Vatican II. Alors, quand je vous dis, c'est très important ça, hein, que Vatican II n'est pas le point zéro de l'histoire de l'Église, ce sera quand même un peu fort, hein, c'est parce que les intuitions de Vatican II précèdent Vatican II. Il faut toujours se rappeler, lorsqu'on parle de Vatican II, que le concile de Vatican II a été préparé par les papes précédents et en particulier par Pie XII, qui n'était pas considéré comme un grand réformateur. Et pourtant, hein, nous venons de traverser d'ailleurs avec pas mal de normes, parler de normes morales sanitaires, hein, la veillée pascale, qui a été célébrée avant le coucher du soleil ou avant son lever selon les paroisses, les communautés. La veillée pascale, qui est une... On dit souvent la veillée pascale, le Vatican II, c'est la rénovation de la liturgie, la nouvelle liturgie, mais pas la veillée pascale. La veillée pascale, c'est avant Vatican II. C'est Pie XII. Voilà un exemple liturgique, mais je vais en donner d'autres, hein, mais qui montre que Vatican II a été préparé et que Vatican II n'a été un événement possible, un événement d'ampleur, que parce qu'il a été préparé avant. Donc c'est impossible de dire Vatican II, c'est super, tout a commencé. Si vous voulez, avant c'est l'obscur et la lumière se lève avec Vatican II. Mais non, pas du tout. Vous voyez que la liturgie que nous célébrons maintenant, c'est une liturgie qui est préparée avant Vatican II. La réforme de la vigile pascale ou de la veillée pascale, c'est avant Vatican II. Pour ceux qui en ont le souvenir, rappelez-vous, moi je n'ai pas connu, mais mes parents et mes grands-parents me décrivaient la veillée pascale qui existait dans l'ancien rite, qui existe d'ailleurs toujours, mais enfin, bon. Cette veillée pascale, c'était une veillée minuscule, liturgiquement minuscule par rapport à la veillée pascale que nous célébrons maintenant. Mais c'est Pie XII qui a souhaité réformer. On parle aussi de Vatican II pour bien des questions, mais la Bible que vous avez des cours de Bible, on étudie la Bible avec différentes méthodes, on lit la Bible aujourd'hui, on la considère comme un texte et non pas d'abord et non pas comme un texte comme les autres. Alors c'est un texte sacré. Mais on a dû vous dire, vous savez aussi bien que moi, que depuis Vatican II, on n'arrête pas de nous dire ça, depuis Vatican II, on lit aussi la Bible comme un texte soumis aux normes de la littérature, de l'histoire, de l'histoire des textes, de la linguistique, des sciences humaines. Oui. Et on dit, bah, depuis Vatican II, on peut faire ça. Mais c'est avant Vatican II, en fait. Hein? La méthode avec laquelle on lit la Bible souvent maintenant, qui est la méthode historico-critique, est antérieure à Vatican II. Le père Lagrange à l'école biblique de Jérusalem, avant Vatican II. Je dis ça parce que pour montrer que Vatican II, souvent, n'a fait que valider ou amplifier les intuitions qui l'ont précédé. Autre chose de Vatican II, et vous verrez en quoi ça va concerner la morale, Vatican II, chacun sait ça. C'est l'écuménisme, à différencier du dialogue interreligieux. Hein. Je vous rappelle que l'écuménisme, c'est entre chrétiens, le dialogue interreligieux, c'est avec les autres religions du monde. Bon. Mais l'écuménisme, comme le dialogue interreligieux, sont des apports de Vatican II, mais préparés avant Vatican II. Là encore. Donc, il faut se sortir de la tête, si vous voulez, que Vatican II a tout inventé. Pas du tout. Ensuite, si vous êtes là aujourd'hui, devant moi, et si vous faites de la théologie, et si vous lisez la Bible comme moi, et si, etc., c'est de fait parce qu'il y a eu Vatican II. C'est-à-dire que la grande intuition de Vatican II, c'est que l'Église. Alors, c'est une formule du père Congar, peut-être c'est un nom que vous avez rencontré, le père Congar dominicain. Congar disait, à partir de Vatican II, le discours sur l'Église ne s'est plus réduit au discours sur la hiérarchie de l'Église. Ça, c'est, pour le coup, c'est une. Comment dirais-je, une validation, une intuition absolument majeure de Vatican II. C'est-à-dire, c'est en théorie, et je dis bien en théorie, la fin de l'Église pyramidale, avec qu'est-ce que l'Église? Eh bien, c'est le pape, et puis après on descend, on descend, on descend, on descend, le pape, les cardinaux, les archevêques, les évêques, les recteurs, les doyens, les curés, le vicaire, le diacre, et puis au bout, au bout, au bout, l'homme, célibataire, la femme, et puis le mariage. Au bout, c'est-à-dire en bas de la pyramide. Ce schéma-là, pyramidal, qui est hérité de Constantin, en fait, hein, l'empereur, hein, donc on appelle ça l'Église constantinienne. C'est un schéma impérial, si vous voulez. Ce schéma-là a été, là pour le coup, on peut dire réformé par Vatican II, puisque vous savez que Vatican II décrit d'abord l'Église comme un peuple. Le peuple de Dieu, et une fois que Vatican II a défini l'Église comme un peuple, après ça, après, quand vous tournez les pages du Concile, après, on vous parle du pape, des évêques, du clergé, mais on est d'abord tous des baptisés. Donc, la révolution de Vatican II, si vous voulez, c'est que l'Église, c'est d'abord des baptisés, le pape y compris. C'est la revalorisation du sacerdoce baptismal commun. Sacerdoce baptismal commun. Dans le cadre d'une église peuple et non plus d'une église hiérarchique. Et c'est pour ça que depuis Vatican II, pour le coup, les laïcs se mettent à faire de la théologie et enseignent la théologie. Et quand vous vous posez des questions du type question de sens, ma foi, je l'ai héritée, c'est une foi un petit peu trop héritée de mon enfance, j'ai envie d'apprendre. J'ai envie d'en prendre pour mettre au service de ma paroisse, de ma communauté. J'ai envie d'apprendre pour enseigner, pourquoi pas, la théologie. C'est pour ça que vous pouvez le faire. Mais c'était inimaginable, ou quasi inimaginable, avant Vatican II. Les cours de théologie, c'était pour des clercs, par des clercs, pour des clercs. Un point, c'est tout. Hein? Sauf de rares, comment dirais-je, rares spécialistes qui finissaient par en savoir beaucoup plus que les clercs, d'ailleurs, en général, les laïcs. Hein, beaucoup
donc,
plus
jamais plus. Une femme.
Ah oh non, bah c'est non, pas, enfin, jamais. On ne peut pas dire jamais, il ne faut jamais dire jamais. Hein, c'est comme dans James Bond, mais on dit, parce qu'il y a eu des, comment dirais-je, il y a eu de grandes figures de saintes, mais les femmes, c'était la Vierge Marie, et puis, si vous voulez, les saints, les saintes de l'Église. Mais il n'y a pas les docteurs de l'Église. C'est une bonne question. Les docteurs de l'Église, regardez, c'est 9 dixièmes d'hommes. Depuis Vatican II, on se met à doctoriser des femmes. Tiens, tout à coup, les femmes peuvent être docteurs de l'Église. Tiens. Il y en avait avant, hein, mais si on fait la ratio avant et après Vatican II, on a découvert, les papes ont découvert que les femmes pouvaient aussi être docteurs de l'Église après Vatican II.
Une petite question.
Oui.
Excusez-moi, justement à propos des femmes, parce qu'à l'époque, alors je ne sais pas, au Moyen-Âge, ou dans des grandes abbayes qui étaient du coup très importantes,
oui.
J'ai pas le nom en tête, il y avait des moniales et des moines à l'époque.
Oui.
Enfin, on peut dire où il y avait double autorité. Il y avait pas forcément où c'était. Où c'est...
Alors c'est exact, mais c'était.
C'était au Moyen-Âge.
Oui, c'était au Moyen-Âge, et c'est Fontevraud, des abbayes
ouais, comme, voilà.
qu'on peut visiter, etc.
Ouais.
Mais non seulement il y avait double pouvoir, mais il y avait plutôt le pouvoir des femmes.
Ben justement, c'est par rapport à ça, est-ce que les femmes aussi étaient, du coup, faisaient de la théologie, ou c'était de quelle manière? Et justement, pourquoi ce pouvoir a été présent et a disparu et...
Non, ce n'était pas d'un pouvoir théologique, c'était un pouvoir d'organisation, si vous voulez, ou de gestion, qui est d'accord. incontestable. Mais qui n'était pas d'abord un savoir théologique. Le savoir théologique, à ma connaissance, était réservé. C'était le savoir des clercs. En revanche, il est incontestable que dans ces abbayes, c'est les femmes qui gouvernaient. Mais c'était un gouvernement. Ce n'était pas c'était pas un enseignement.
Et du coup, elles étaient enseignées par les clercs.
Ou pas. Ou pas. Il y a une exception avec Catherine de Sienne. Mais une exception que les hommes ont voulu, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le parcours de Catherine de Sienne, qui est je ne sais plus si c'est Jean-Paul II ou Paul VI qui l'a proclamé docteur de l'Église. Et alors, pourquoi? Parce qu'il y a des, quand Catherine de Sienne, il y a des images qu'a de dire médiévales qui montrent Catherine de Sienne, même des petites peintures, enseignant à des hommes.
Ah oui, d'époque.
Oui. Mais vous, les historiens ont critiqué ces images en disant, si j'ose dire, ce sont des images d'Épinal que Catherine de Sienne n'a jamais enseigné à des hommes. Donc on se demande si ce n'est pas une reconstruction postérieure. Hein. Mais ça a été questionné, en tout cas pour Catherine de Sienne. Mais c'est une des exceptions qui confirme la règle. Hein. Y compris les femmes qui ont été doctorisées comme Thérèse d'Avila, par exemple, hein. Thérèse d'Avila avait un savoir mystique, pas seulement un savoir, mais une expérience mystique, mais on ne demandait pas à Thérèse d'Avila de faire des cours de théologie. Thérèse d'Avila, elle avait son confesseur, comme tout le monde, et puis son, son, comment dirais-je, les supérieurs hiérarchiques, hein, mais elle n'était pas une enseignante, c'est une mystique. Donc, la mystique pouvait être un des lieux d'excellence, si je puis dire, de la vie féminine dans l'Église, mais pas la théologie. La théologie, c'est les hommes, et c'est les clercs. Hein. J'aurai l'occasion de vous le redire, mais la Sorbonne est une université qui était tenue par des clercs et qui enseignait à des clercs. Ce n'est plus du tout la Sorbonne que nous connaissons aujourd'hui. Hein. La Sorbonne telle qu'elle était, c'est quand vous passez devant la Sorbonne, vous avez les grands saints qui ont Albert le Grand, etc. Ça, c'est le témoin du passé. Mais c'est, tout ça, c'est fini. Alors, le modèle d'Église, pour aller un peu vite, que propose Vatican II, c'est un modèle, en effet, plus égalitaire, beaucoup plus égalitaire, parce que ça veut dire que des hommes et des femmes peuvent faire de la théologie et enseigner de la théologie. Ça, c'est plutôt révolutionnaire. Enfin, c'est le mot révolution, vous voyez, que j'utilise avec prudence, mais c'est en tout cas très réformateur. Très réformateur.
Oui, mais alors il y a un problème, c'est que quand même, quand les femmes mettent les pieds quelque part, oui. Quand les femmes mettent les pieds quelque part, les hommes n'y restent pas longtemps.
Bon, ça dépend. C'est difficile dans la liturgie. Hein, ça reste très difficile dans la liturgie. Hein. Le fait qu'il y ait des femmes qui puissent être lectrices à la messe, qui puissent donner la communion, c'est possible depuis Vatican II. C'était inconcevable avant Vatican II, où le sanctuaire était réservé aux hommes. Hein, souvenez-vous, il y en a toujours d'ailleurs, bien sûr, des églises qui ont une grille qu'on appelait le banc de communion. Une femme ne pouvait pas entrer dans l'espace sacré, le sanctuaire, qui était réservé aux hommes.
Oui.
Maintenant, en principe, c'est possible, mais regardez les hésitations dans certaines églises où on fait en sorte que seuls les hommes pénètrent cette terre sacrée qu'est le sanctuaire, et surtout pas les femmes.
Comme les enfants de cœur.
Oui, comme les enfants de cœur. Si c'est des filles, à ce moment-là, on leur met un petit vêtement pour dire qu'elles font ça, mais qu'elles ne sont pas comme des jeunes clercs, etc. Voilà. Alors, ça, c'est pourquoi je vous ai dit tout ça sur Vatican II ? Parce que il faut que j'ajoute une note, hein. C'est que Vatican II est un concile qui a eu lieu entre 62 et 65. Le contexte historique de Vatican II, c'est les menaces de guerre atomique. Si vous vous souvenez de ou bien de ces années, ou bien des livres d'histoire. 1962, c'est l'épisode de la baie des cochons, hein, qui est un épisode qui aurait pu faire basculer le monde dans la guerre atomique, qui n'a pas eu lieu, etc. Et quand Jean XXIII, quand le pape Saint Jean XXIII convoque Vatican II, un des grands textes de Vatican II sera un des textes sur la guerre, c'est-à-dire un texte sur la paix, en l'occurrence, avec une encyclique propre à Vatican II, enfin une encyclique de Jean XXIII, qui s'appelle Pacem in Terris, hein, paix sur la terre. Autrement dit, la première obligation morale de Vatican II, c'est apporter la paix, une morale de paix au moment où la terre allait exploser à cause des menaces nucléaires, en pleine guerre froide. Tous les grands discours sur la paix maintenant, jusqu'à François, qui a fait réformer le catéchisme actuel pour y supprimer la notion de... pour y modifier la notion de guerre juste, hein, c'est une intuition de Vatican II, une morale de la paix. Si nous travaillons maintenant les questions de morale avec nos autres frères chrétiens, protestants et orthodoxes, si nous essayons, avec les autres religions du monde, morale de l'islam, morale du judaïsme, enfin, ce qu'on appelle les autres, abusivement d'ailleurs, les religions du livre, si nous essayons de mettre au point des textes communs entre religion du livre et avec nos frères chrétiens les plus proches, ou les plus éloignés d'ailleurs, c'est grâce à Vatican II. Avant Vatican II, une morale écuménique, ça n'a pas de sens. Avant Vatican II, une morale commune avec avec l'islam ou avec la racine qu'est Israël, c'était pas possible comme ça. Donc une morale interreligieuse, une morale écuménique n'est possible que parce qu'il y a eu Vatican II. Une morale qui se soucie de l'écologie, hein, qui est d'ailleurs une morale qu'on essaie de mettre au point avec les autres religions, bien entendu. Une morale on ne parlait pas d'écologie d'ailleurs, on parlait de sauvegarde de la création. Hein, c'était l'expression théologique consacrée, mais la sauvegarde de la création, ce qui est devenu maintenant l'écologie, avec l'encyclique de pape François sur l'écologie, hein, Laudato aussi, ce n'est possible que grâce à Vatican II. D'ailleurs, l'Église a été, on pourrait dire, pour une fois qu'elle l'est, c'est pas mal, l'Église a été pionnière sur le terrain de l'écologie par rapport à beaucoup d'autres institutions internationales. Depuis Vatican II, hein, Vatican II, Paul VI, et puis après, c'est monté en puissance, Paul VI, Jean-Paul II et actuellement François qui fait de l'écologie un des enseignements majeurs du pontificat. Ça, c'est Vatican II. Donc là, je dirais, entre guillemets, méfions-nous de ce terme, je le prends, il est à prendre avec des pincettes, hein, mais la révolution de Vatican II a ciblé un des premiers impacts de la révolution de Vatican II, c'est la morale. J'ai évoqué dans vos cours, vous avez certainement entendu parler des sacrements, la liturgie, la Bible. Bon, je ne vais pas vous refaire les méthodes de Bible. Ça, c'est Vatican II, préparé avant Vatican II. Mais la morale, a évidemment bénéficié du souffle réformateur de Vatican II. La question est de savoir si ce souffle réformateur est retombé ou pas.
Oui.
Hein ? Parce que le synode, il y a quelques années, qui a donné, synode sur la famille, à Maurice, qui a donné l'exhortation du pape François à Maurice Laetitia, c'est une reprise de l'intuition de Vatican II, directement, hein, puisque Vatican II, et ça c'est très important pour vous, à savoir, Vatican II a réussi sur tout, je vais être un peu cinglant, hein. Vatican II a réussi sur tout, sauf sur certains aspects de la morale. Le concile, ça c'est mon hypothèse, mais elle est partagée par d'autres historiens, le concile s'est arrêté sur les questions morales que Paul VI ne voulait pas traiter. Je m'explique, on a traité de beaucoup de choses à Vatican II. On vous a dit, hein, Vatican II, ça a été des querelles, des controverses très fortes sur la liturgie, sur l'interreligieux, sur l'écuménisme, très fort, très très fort. Et puis, il y a un dernier chapitre que les pères de Vatican II auraient dû aborder, c'était la morale, ce qu'on fait nous là, aujourd'hui. Alors, promouvoir la paix autour de soi, Vatican II, on peut écrire là-dessus, hein, la paix, ça va. Mais Vatican II a échoué, Vatican II s'est arrêté sur les questions de morale familiale. Il n'y a rien eu à Vatican II, parce que Paul VI en avait assez que les pères conciliaires se fassent la guerre, si vous voulez, c'était déjà très chaud, et il a arrêté le concile. Mon hypothèse, c'est que François a voulu reprendre dans son synode sur la famille ce qui avait été arrêté à Vatican II par Paul VI. Et je ne sais pas si François a beaucoup plus réussi que Paul VI. parce que c'est toujours la morale conjugale, la morale familiale, la morale sexuelle qui est le sujet le plus explosif. Et je n'ai qu'à vous citer un exemple pour démontrer mon hypothèse. L'encyclique Humanae Vitae sur la contraception et sur l'usage des méthodes chimiques dans la contraception. En 1968, Humanae Vitae, Paul VI, qui avait été le pape, qui était ressenti dans l'Église entière comme le pape réformateur. Tout le monde s'attendait à ce que Paul VI valide la contraception chimique. Et en particulier, les femmes catholiques s'attendaient à ce que Paul VI valide une contraception chimique qui était largement utilisée. Eh bien, Paul VI a dit non. Si vous vous souvenez, ou si vous avez des références historiques, la réception de l'encyclique Humanae Vitae a été catastrophique, notamment en Europe occidentale, parce que les femmes catholiques n'ont pas compris et parce que les épiscopats locaux ont dû développer des textes, des contorsions pour expliquer soit leur malaise, hein, l'épiscopat français a quand même dit son malaise hein, par rapport à l'encyclique, ou pour expliquer aux femmes que Paul VI n'est pas approuvé la contraception chimique. Paul VI avait réuni une commission de théologiens. La commission de théologiens, il y a une controverse actuellement sur la commission de théologiens, donc on va voir vers quoi ça va. Mais pour le moment, on disait la commission de théologiens avait validé la contraception chimique. Donc tout le monde s'attendait à fortiori que Paul VI mette son nom en bas à droite de l'encyclique et valide. Eh bien, il a dit non. Et les historiens considèrent maintenant que Paul VI a échoué. Son pontificat a échoué avec Humanae Vitae, à cause d'Humanae Vitae. C'est-à-dire le pape de la réforme cessait tout à coup d'être le pape de la réforme. Sur la morale conjugale, pas de réforme. Et donc la morale conjugale est demeurée la pierre d'achoppement, pratiquement l'échec de la réforme voulue par les papes et par les pères conciliaires.
Oui, excusez-moi. Hein?
Oui.
C'est marrant parce que c'est pas la première fois en fait qu'il y a ce sujet qui est abordé et je crois que j'avais déjà réagi à ce sujet parce que vous en parlez comme si ça semble évident
oui.
que valider cette fameuse contraception chimique soit quelque chose d'évident. Alors que pour moi, c'est un sujet extrêmement complexe. Et je ne comprends pas, en fait, et que même aujourd'hui, dans la société, la contraception chimique est remise en cause.
Donc, oui, non, mais je ne parle pas.
Mais en fait, je ne comprends pas pourquoi ça aurait dû être un sujet qui, clairement, aurait dû être validé et que, du coup, c'était un échec que ça ne le soit pas.
Parce que
ça semble un sujet complexe.
Le contexte de 2021 n'est absolument plus le contexte de 1965, c'est-à-dire le contexte de l'émancipation, le contexte du féminisme des années 60, n'est absolument plus le contexte de l'émancipation et du féminisme en 2021. C'est-à-dire ce qui semblait, et peut-être là je rejoins votre questionnement, ce qui semblait évident dans les années 60, c'est-à-dire l'obtention de la contraception chimique se trouve en effet en ce moment mis en cause ou questionné comme non évident. Ça n'est plus évident, en tout cas dans certains, pour certains milieux, voire pour certains soignants, etc. Ça n'est plus évident, mais voyez bien que, à mon avis, pour répondre à votre question, la manière de la contextualiser, c'est le débat autour de ce qu'on appelle les féminismes. Et il est évident que le débat autour des féminismes s'invite dans l'Église catholique. Et pour faire vite et répondre à votre question, le féminisme des années 60, qui est un féminisme considéré comme d'émancipation, n'est plus le féminisme actuel, qui en plus aujourd'hui est ce sont des branches, c'est-à-dire des féminismes qui sont pluralistes, en fait, hein, voire contradictoires. Et donc, ce qui semblait évident et ce qui est considéré, ce que les historiens ont remarqué comme évident dans les années 60, ne l'est plus aujourd'hui. Mais on aurait la même question sur l'avortement, puisqu'on est vraiment dans l'actualité. Hein, il ne vous a pas échappé que la première pétition, etc., des femmes qui demandaient l'accession, etc. Il y a eu une nouvelle pétition hier qui a été signée par pas mal de femmes, etc. Mais dans un contexte, c'est tout à fait étonnant, parce que les contextes d'émancipation et le contexte des féminismes ont totalement évolué.
Hein, et non, donc, mais oui. Non, mais parce que derrière, parce qu'en fait, si je dis ça, c'est dans cette question justement de l'émancipation des femmes, sur la question de la contraception chimique, très clairement, si on regarde objectivement la situation, ça peut aussi permettre à l'homme de s'émanciper tranquillement. Enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire ? Cette question de la contraception chimique évidente fait derrière cette question de l'émancipation féminine par la contraception chimique, il y avait quand même la question de la femme qui prend un médicament et qui permet à l'homme de pouvoir jouir sans entrave. Enfin,
oui, vous voyez ce que... c'est si vous voulez, c'est la oui, c'est bien ça, c'est la question des féministes, la question du rapport homme-femme, de l'égalité dans le couple, etc., et de la remise en cause par les femmes elles-mêmes dans différents courants du féminisme de ce qui a été vécu dans les années 60, c'est-à-dire le féminisme d'Elisabeth Badinter, par exemple, n'est pas le féminisme d'autres féministes qu'elle critique, elle est critiquée aujourd'hui par des féminismes qui la combattent. Hein. Donc le climat que j'essaye de restituer de l'époque, c'était bien celui-là. Mais en vous entendant, ce qui paraît évident, c'est d'ailleurs pas seulement en vous entendant, hein, c'est que le contexte de l'époque n'est plus le nôtre. Hein. Et c'est évident également sur la question de l'avortement.
Hein. Oui, mais c'est pour ça que, est-ce que Paul VI a échoué ou est-ce que Paul VI a une intuition plus profonde ? Parce que alors, dire que ça a échoué, je trouve que derrière, il y a tout de suite une... Enfin, je l'entends en tout cas comme moi, je suis pas là pour défendre Paul VI, en fait. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il a vraiment échoué, en fait ? Parce que justement, ça rejoint la question de l'avortement. Et la question de l'avortement reste un sujet complexe. Enfin, il y a quand même... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ?
C'est-à-dire que...
En touchant à cette question de la contraception chimique, il n'avait pas l'impression qu'il ouvrait la porte de l'avortement, justement.
Aujourd'hui, l'avortement est acquis. Dans les années 60, peut-être que Paul VI s'est appuyé là-dessus, dans les années 60, il y avait énormément de femmes qui mouraient dans les avortements clandestins aussi.
Mais je ne remets pas du tout ça en cause. Je remets Il y a une très grande différence entre la question de la loi pour protéger les femmes qui vont mourir de l'avortement ou des questions très... En fait, c'est pas pour moi, le sujet n'est pas là. Le sujet est que c'est un peu, ça va se rapprocher de la question de l'euthanasie ou des questions comme ça. C'est-à-dire que à partir du moment où on ouvre cette question, on ouvre quelque chose d'énorme en fait.
Oui, alors
est-ce que Paul VI n'a pas eu cette intuition ? Voilà, la peste est plus facile. Quoi.
En éthique, il faut surtout pas rapprocher. En éthique, il faut toujours distinguer. Penser, c'est distinguer, et en éthique surtout, parce que si on mélange les questions, on parle de l'euthanasie, comme on parle de l'avortement, et on parle ensuite de la contraception. Ce sont des questions qui n'ont pas la même. Bon. Ensuite, c'est le premier point. Deuxième point, moi je ne faisais que décrire comment les historiens et les catholiques de l'époque ont ressenti ce qu'on appelle en théologie comment a eu lieu la réception des enseignements de Vatican II ou des enseignements de Paul VI sur la question de la contraception. Donc la réception, comment a été reçu par le peuple de Dieu les enseignements, notamment l'enseignement d'Humanevitae. Et c'est à peu près évident de dire que ça a été reçu de manière, je vais être prudent, très contrastée. Hein. C'est-à-dire le... aujourd'hui, ce serait sans doute tout à fait différent, ou notoirement différent. Peut-être qu'on peut considérer que, et vous avez sûrement raison du point de vue du jugement de valeur, que Paul VI a été prophétique en résistant à la contraception chimique. Je dis simplement que, attention, ce n'est pas ainsi que dans le contexte du temps, son enseignement a été reçu. C'est peut-être dommage. Peut-être que vous pouvez considérer qu'il a été un prophète qui prêchait dans le désert, mais qu'il était quand même prophète. Mais du point de vue de la réception, ce n'est pas comme ça que les femmes catholiques, si on prend uniquement la France, hein, ont reçu son enseignement. Alors, si on change de contexte, c'est sûrement différent. Si on actualise, c'est sûrement différent, mais c'est ce qui s'est passé à l'époque. Alors, je vois qu'il est 4h05, donc je ne vais pas vous retenir plus. Je dis juste un mot de conclusion. Le dénominateur, on aura l'occasion de déployer cette notion, c'est une manière de répondre aussi à Emmanuel de Roux. Le dénominateur commun de la morale intangible de l'Église sur les questions en particulier de morale conjugale, c'est ce qu'on appelle, c'est l'idée de nature. Oui. C'est-à-dire que la morale de l'Église, sur la morale conjugale et sexuelle, est avant tout une morale fondée sur non seulement l'idée de nature, mais la loi naturelle. Ça, c'est le dénominateur commun pour expliquer les refus de l'Église, ou, en sens contraire, si on veut, les intuitions ou les prophéties de l'Église, mais c'est bien la morale naturelle. Alors, j'aurai l'occasion de déployer ce terme de la loi naturelle, de la morale naturelle après, pas en cours, mais je voulais conclure là-dessus. Il est 4h06, on a déjà un tout petit peu débordé, donc je ne prends pas d'autres questions pour ne pas vous retenir plus, et je vous dis à la semaine prochaine, n'est-ce pas ?
C'est mon père. Voilà.
Merci beaucoup.
Eh bien, bonne fin de journée à vous.
Bonne semaine. Au revoir, merci.
Au revoir et merci.
Au revoir à tous.